Est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête avec quelqu'un? Jamais. Quand ça? Est-ce que vous avez déjà eu des prises de bec? Moi, ça m'arrive. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Des luttes, des querelles, des conflits, des prises de bec, on se prend la tête. Nous avons été des heureux témoins ce matin d'une prise de bec mémorable. Eh ouais, ça, c'est le quotidien. Et des fois, on a même des envies de meurtre, hein? On mettrait bien un coup de boule à quelqu'un, là. On se retient parce qu'on est civilisé, éduqué. Parfois, on se retient pas, ça part. Ça vous a jamais pris des envies de meurtre comme ça? Et parfois, c'est pour une rayure sur la voiture. Mais c'est l'attitude qui va avec, hein, qui nous irrite, ça nous fait monter en pression. Et c'est vrai que c'est ces moments où on se prend la tête avec quelqu'un, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans la vie professionnelle, ça arrive fréquemment, ou dans la rue, avec des inconnus, ben, on n'est pas en paix. On n'en est pas heureux. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on aurait l'impression d'être le perdant. On aurait l'impression de s'être fait marcher dessus. On aurait l'impression que on n'a pas d'honneur, peut-être. Ou que si on ne réagissait pas, finalement, ça continuerait, ça continuerait. Et cette question, frères et sœurs, de nos querelles, de nos luttes, eh bien, l'épître de Jacques l'aborde au chapitre 4. Alors, prenons ensemble l'épître de Jacques au chapitre 4. Et on se demande tous d'où ça vient, d'où ça nous vient. Et là, la réponse, elle est évidente. Ça vient de l'autre. Pas besoin de se poser 3000 ans la question. Quand je me prends la tête avec quelqu'un, c'est que ça vient du problème qu'il a amené, de son attitude, de ses actions, et c'est l'autre qui a un problème. Non, d'une pipe, dirions-nous. C'est pas la réponse que Dieu nous donne. Et si nous voulons laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies, si nous voulons grandir en maturité, ressembler à Jésus-Christ davantage, et au niveau des querelles, des luttes, de nos prises de bec qui sont si souvent là, si nous voulons qu'elles se fassent de plus en plus rares, nous avons besoin d'avoir une autre réponse que c'est l'autre. Et cette réponse, c'est moi. Alors lisons ensemble Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Va être notre lecture ici. Alors, Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous propulse? Quel est notre moteur? On a vu que nos motivations sont fondamentales. On a des objectifs qu'on veut atteindre et il y a des choses qui les motivent. Et le Seigneur se préoccupe de mes mauvaises motivations. Le verset 3 les résume en disant, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, dans le but de satisfaire vos désirs. Je suis centré sur moi-même et je veux me satisfaire. Je veux que mes passions trouvent leur accomplissement. Alors le mot passion ici est intéressant. En grec, c'est le mot édoné qui a donné le mot français un petit peu savant peut-être, hein, l'hédonisme. Pour ceux qui ont étudié la littérature et la philosophie, l'hédonisme, c'est cette manière de vivre où le but ultime, c'est le plaisir. Le plaisir, les passions, la réalisation de nos rêves, de ce qui nous enchante, de ce dont on a envie. Vivons pour avoir ce qu'on a envie. Ça, c'est l'hédonisme. Et ici, le Seigneur nous dit, voilà, vous êtes centrés, vous êtes des hédonistes finalement. Vous avez à l'intérieur du cœur des motivations, des passions, des envies. Moi, j'ai envie qu'on me respecte, par exemple. Voilà une envie. Et je ferai tout pour qu'on me respecte. Et si on ne me respecte pas, ça va chauffer. C'est la querelle, c'est la lutte, c'est le meurtre. Et le Seigneur nous dit que en soi, il n'est pas contre le fait que nous soyons satisfaits, que nous ayons de la joie, que nous ayons du plaisir. Le Seigneur n'est pas contre la joie et le plaisir. Il ne demande pas aux chrétiens d'être des gens tout le temps malheureux, qui ne goûtent rien de ce que la vie peut offrir. Voilà, cela nous renvoie à être amis du monde, n'est-ce pas? On dit, mais alors dans ce cas, je me coupe de tout, je ne fais rien, je suis un moine quelque part, et puis j'enlève toutes les passions, je me dépassionne, voilà un autre courant philosophique que chez les Grecs, ou dans le bouddhisme, que d'annihiler les désirs et les passions. Hein, vous avez deux courants là qui sont classiques. Vivre pour les passions, pour ce qui nous habite le cœur, pour ce qui nous transporte, ou alors au contraire tout à fait les éjecter en totalité de notre vie. Eh bien, Dieu est équilibré. Il n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais voilà que Jacques nous l'a dit déjà au chapitre 1 et au verset 17. Il nous l'a rappelé. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Il dit, s'il y a des choses, s'il y a des belles choses dans la vie, s'il y a des dons, s'il y a des cadeaux, s'il y a des choses excellentes, toutes ces choses-là viennent de Dieu qui les a créées. C'est lui qui nous a donné les papilles gustatives pour apprécier des bons plats. C'est lui qui nous a donné des yeux pour voir en trois dimensions, en couleur, avec toutes les nuances qu'il faut, sauf les daltoniens, c'est dommage pour eux. N'est-ce pas? Et quand on est daltonien, on se dit, il me manque quelque chose de ce que le Créateur a fait. Et on peut continuer ainsi les exemples. Toute chose bonne vient de Dieu. Même les richesses matérielles. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, si vous prenez avec moi ce texte, 1 Timothée 6, 17, l'apôtre Paul s'adresse, demande de s'adresser aux riches. Et il dit à Timothée, en tant que pasteur, il dit, voilà, quand tu as certainement des personnes riches dans ton église, il leur dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Il reconnaît là que Dieu nous donne toutes choses avec abondance quand c'est le cas, pour que nous en jouissions, mais pas dans un esprit hédoniste, pas dans un esprit où le but de ma vie, le but de mes richesses, c'est de bien en profiter, moi, moi, moi et moi. Et puis gare à celui qui veut m'en piquer un morceau. En fait, si nous revenons à Jacques, le problème n'est pas la joie en elle-même. Le problème, c'est de vivre la joie pour la joie, de rechercher la joie pour elle-même, coupée d'une relation à Dieu. La joie des choses doit découler de ma vie en lien avec Dieu. Et si je goûte des choses dans cette existence, c'est en lien avec Dieu, avec ma foi, avec ma vie spirituelle, avec un esprit de reconnaissance et avec un objectif dans le cœur de dire, Seigneur, tiens, tu me donnes ça, je t'en loue, je t'en remercie, mais qu'est-ce que je peux t'en rendre? Qu'est-ce que je peux en faire pour toi aussi? C'était le cas dans Timothée par rapport aux personnes qui avaient avec abondance des biens matériels et qui pouvaient s'amasser un trésor dans le ciel et les utiliser à bon escient pour le Seigneur. Alors, l'image qui nous est donnée ici va bien plus loin. En Jacques 4,4, donc le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alors, on reprend. On parle des querelles, on parle des luttes et on dit ça part de l'intérieur, c'est pas l'autre, c'est moi. Et ça part des choses dans mon cœur, dans ma vie, où je veux pas lâcher, je veux absolument qu'elles soient exécutées, satisfaites, accomplies, et je vais me battre pour ça. Parce que je veux obtenir satisfaction. Alors, satisfaction dans les plaisirs de la vie, peut-être des satisfactions aussi dans mes relations avec autrui, peut-être avoir raison, avoir le dernier mot, ne pas vouloir qu'on me mette la main sur l'épaule un peu brusquement, et attention, je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez, toutes ces choses qu'on tient, on y tient, et puis si les autres en face n'y tiennent pas, ben on va leur apprendre à y tenir. Parce que je veux être satisfait. Je veux que ce qui compte pour moi soit accompli, c'est ma priorité. Et là, nous parlons de l'objectif d'une vie. Quel est notre objectif dans la ben, c'est moi. Mon objectif, c'est moi, c'est ce que je veux soit fait, en place, maintenu, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce qui va me rendre heureux, c'est ce qui va me rendre joyeux. En tout cas, ça, c'est ce que je crois. Nous voilà dans cette expression où Dieu nous traite d'adultère. Pourquoi ? L'image de l'adultère. Dans un couple marié, normalement, il y a du plaisir, oui ou non ? En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Après, chez les autres, j'en sais rien, c'est leur problème. Mais dans un couple marié, eh bien, le Seigneur a donné toute bonne chose. Et cette relation où il y a un partage de cœur, mais il y a aussi un partage de corps, c'est la sexualité que Dieu a donnée, mais son partage des âmes aussi. Et il y a ce plaisir de la présence l'un de l'autre, de l'échange qu'on a l'un avec l'autre. Et puis, de vivre ça, y compris dans le domaine de la sexualité. Un couple marié a une relation et le fruit en est du plaisir. Et l'adultère, c'est quand je vais chercher ce plaisir ailleurs que dans le fruit de ma relation avec mon conjoint. Et là, Dieu nous traite d'adultère. Il dit, vous allez chercher votre plaisir, la satisfaction de vos désirs, de vos appétits, de vos envies, de ce qui compte pour vous. Vous allez les chercher ailleurs qu'en moi, ailleurs que dans la relation avec moi. C'est fort, hein, comme image, hein, cette image où Dieu nous dit, adultère que vous êtes. Vous me trompez. Nous avons une relation privilégiée ensemble, nous dit le Seigneur. Je suis venu par mon esprit habiter dans votre vie. Et c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ce texte. Un peu comme à l'époque où on allait demander la main d'une demoiselle à son père et il accorde la main de sa fille. Que ressent un père lorsque, un peu plus tard, il voit son gendre qui fait de l'œil à d'autres femmes que sa fille? Moi, je crois que je serais très en colère si mes filles se marient et puis que plus tard, dans leur vie de couple, je vois mon gendre avoir un peu des œillades à droite, à gauche, ça ne va pas me plaire. Hein. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain, verset 5, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous, avec nous. Et là encore, nous avons l'image d'un couple marié. Lorsqu'un couple est marié, imaginons l'un des conjoints qui fait sa vie comme un célibataire, comme s'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Il vit comme s'il était seul, mais est-ce que ce n'est pas souvent ce que nous faisons avec Dieu? Il a fait venir son esprit habiter en nous, chez nous, il a fait sa demeure en nous. Et peut-être qu'on vit comme des célibataires qui ignorons royalement, intentionnellement, le Saint-Esprit qui habite là, il habite là, mais on vit comme s'il n'y était pas. Et il n'y a pas ce phénomène de relation mutuelle d'où découle la joie. Mais nous cherchons la joie tout seul, coupée de la relation avec Dieu, de la relation avec le Saint-Esprit. Ça, dans un couple, ça s'appelle la masturbation, figurez-vous. Je recherche ma joie dans mon coin tout seul. Le Saint-Esprit, on verra une autre fois peut-être. Hein. Et pire, parfois je vais carrément chercher ailleurs. Et d'y adultère que vous êtes. Vous allez chercher votre joie auprès du monde, dans l'esprit du monde, selon le monde, dans les choses du monde. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous savez, des fois, il y en a qui ont un peu un esprit de libertinage, l'esprit libre. Vous savez, les couples un peu modernes et libres, soi-disant, on dit, moi, c'est pas grave si mon conjoint a besoin, si ça lui fait du bien d'aller ailleurs, etc. Eh bien, vous savez quoi? Le Saint-Esprit, lui, ça ne lui convient pas du tout. Voilà. Et c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il dit, ça, il n'y a pas ça chez moi. Quand tu vas un peu à droite, à gauche, regardez. Il dit, je me sens blessé au plus profond de moi-même. Je t'ai racheté pour que nous ayons une relation exclusive et privilégiée pour que ton existence, elle soit faite main dans la main avec moi. Je suis venu habiter chez toi, en toi. Profitons, vivons, ayons des projets en commun. Laisse mon esprit habiter le tien. Mes valeurs et mes pensées, habiter tes valeurs et tes pensées. Alors la chose, c'est dans mes objectifs de vie, est-ce que je suis comme certains qui sont qualifiés en 2 Timothée 3:4. Prenez avec moi ce texte très parlant. 2 Timothée 3, verset 4. Voilà un tableau qui nous est donné de l'état d'esprit dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, il y a toute une liste. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et puis celui qui suit et qui est particulièrement parlant, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, ma satisfaction avant Dieu. Et c'est là tout le sens même de l'adultère, c'est quand ma satisfaction passe avant celle de mon conjoint, mon bonheur passe avant le bonheur du conjoint qui est trompé. C'est ça l'adultère. Qu'importe si ça le blesse, qu'importe s'il y a des larmes, qu'importe s'il y a de la jalousie, ce qui compte, c'est moi et mon bonheur, passe en premier. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, dans nos priorités, dans nos objectifs, nous avons besoin de savoir quelle est notre motivation principale. Et je pense que ici, C'est résumé à l'expression la plus simple et la plus minimale. Je passe avant Dieu. Moi, avant ce que le Seigneur veut mettre dans ma vie et dans mon cœur. Les mauvaises motivations, ces motivations finalement égoïstes, égocentrées, où je me préoccupe puisque je n'ai qu'une vie de mon bonheur, de ce qui me satisfait, eh bien, ça engendre des relations malades. Quand ma motivation, c'est ma satisfaction, ça m'amènera inévitablement à des relations catastrophiques. Vous vous souvenez, chapitre 3, ça parlait des relations, et le terme grec, c'était les relations anastrophiques qui montent vers le haut, tout au contraire des relations catastrophiques qui tirent vers le bas. Eh bien, lorsque ma motivation, c'est ma satisfaction, les prises de bec, les prises de tête, les querelles, les disputes, parce qu'on ne veut pas lâcher le morceau, ça engendrera des relations malades, des relations malades dans l'église, des relations malades dans le couple, des relations malades avec les enfants, des relations malades dans le travail, avec les voisins. Et nous sommes invités au moins 4 fois dans la parole de Dieu à changer de levier, à changer de base de vie, à changer d'objectif. Je vous les cite en 1 Corinthiens 10, 24. Il nous est dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ça c'est un air qu'on n'aime pas entendre. Mais lorsqu'on le met en œuvre, ben finalement, on construit des relations qui cessent d'être malades. Les querelles, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, d'où viennent... Et vous êtes envieux, vous êtes meurtrier. On est heureux avec ça. On n'est pas heureux avec ça. Mais on ne veut pas lâcher. Le Seigneur nous dit, si tu peux vivre ma paix, si tu veux rentrer dans autre chose, lâche le morceau et décide de vivre sans chercher ton propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui, l'intérêt de l'autre. 1 Corinthiens 13, 5 nous le redit, ce chapitre majeur sur l'amour, la charité, l'amour. Et il nous dit que l'amour ne cherche point son intérêt. Philippiens 2, 4 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis encore plus fort, et ça nous rappelle cette interpellation de Jacques où il nous traite d'adultère, en Philippiens 2, verset 21, Philippiens 2, 21. Et là, c'est un constat que Paul fait parmi un bon nombre de ses collaborateurs qui ont un peu déserté, qui ont un peu baissé les bras, qui ne tiennent pas la route. Et Paul, dans l'œuvre de Dieu, se retrouve un peu isolé. Et il exprime en disant, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » C'est fort. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous sommes devant cette décision, devant cette orientation, et nous avons besoin de d'être honnête devant le Seigneur. Qu'est-ce qui me propulse? Qu'est-ce qui me motive? C'est quoi mon énergie, mon moteur, mon carburant? Est-ce que c'est ma satisfaction, moi, je, mes passions? Ce à quoi je tiens et je veux que ça soit effectif dans ma vie et je ne vais pas lâcher ce morceau-là. Puis s'il faut se battre, on se battra. Où est-ce que je veux chercher les intérêts de Jésus-Christ? Je veux être comme Jésus qui disait au Père à Gethsémané, cependant non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que je suis à chercher ma joie, mon bonheur, ma satisfaction? Et tant pis si des fois je regarde ailleurs et dans le monde et que ça ne découle pas de ma relation avec Jésus-Christ. Ou est-ce que je veux être fidèle au Seigneur, trouver ma joie en lui, accueillir ce qu'il donne, et donne avec abondance toute chose, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières, et nous est bien dit, ne vous y trompez pas. Et c'est là où est le problème, c'est que souvent nous nous laissons tromper en nous laissant croire que le bonheur et la joie et la satisfaction et l'harmonie sont ailleurs. Et ça aboutit à des catastrophes la plupart du temps. Ça aboutit à un cœur qui reste insatisfait, alors que le Seigneur veut le remplir de lui-même, de tout ce qu'il est, comme dans un couple où on se suffit, l'un suffit à l'autre et l'autre suffit à l'un. Est-ce que nous voulons continuer de faire notre vie à notre guise, peut-être sans tenir compte de la présence du Saint-Esprit en nous, comme un célibataire qui ne se préoccupe pas de l'autre? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou pas? Sommes invités en Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Tiens, encore ce rapport entre ce qu'on va chercher à l'extérieur, une sorte de joie ou d'euphorie, de satisfaction. Là, par exemple, à travers l'alcool, quelque chose qui pourrait nous... Non, c'est de la débauche. Le mot débauche, normalement, c'est plutôt un mot qui est mis sur les relations adultères, sexuelles, etc. Oui, parce que c'est la même idée, c'est aller trouver une satisfaction, une joie trompeuse, hein, mais ailleurs que là où le Seigneur veut me la donner, dans une relation juste avec lui. Il dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, nous avons besoin de répondre, Seigneur, je veux que ce soit ton Saint-Esprit qui m'anime, qui me propulse. J'ai besoin de faire du ménage dans mes objectifs. Si mes objectifs, c'est obtenir, conserver ce que moi, je veux, ce à quoi je tiens, ça sera une catastrophe, avec des relations tout le temps tendues, des luttes et des querelles. Le Seigneur nous dit, écoute, cherche mon intérêt, les intérêts de Jésus-Christ avant les tiens. Lâche là où il faut lâcher. Que ton intérêt passe derrière celui de ceux qui sont en face. Et c'est là que tu seras heureux. C'est là que tu pourras semer le fruit de la justice dans la paix et avoir plein de bons fruits. C'était le chapitre qui précédait. Nous aimons le monde. Le Seigneur nous rappelle que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous sommes très habiles à justifier notre amour et notre attachement au monde et nos escapades, nos petites aventures avec le monde. Mais au fond de nos cœurs, nous savons que ça nous éloigne du Seigneur, ça ne nous rapproche pas de lui. Et peut-être avons-nous besoin d'apprendre à trouver notre joie en Dieu. Parce que peut-être nous sommes avec un cœur qui dit « Oui, mais moi, j'ai envie de telle satisfaction, de tel bonheur. » Apprenons à trouver notre joie en Dieu. Et vous savez, le Seigneur n'est pas quelqu'un avec un cœur rétréci. Le Seigneur n'est pas un radin. Lorsque nous mettons le Seigneur en priorité dans nos objectifs et dans nos vies, le Seigneur est miséricordieux, il est plein de grâce et il donne toutes bonnes choses. Là où nous avons besoin, il est un Père qui sait faire plaisir à ses enfants. Et pour cela, il s'agit de commencer à arrêter de vouloir nous-mêmes assurer, rechercher, construire à partir de nos passions, notre propre plaisir, notre propre satisfaction et la laisser entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, je veux que ce soit toi qui me satisfasse. Je te laisse ce travail-là. Et la première chose qu'on arrête, du coup, c'est les querelles et les disputes. Parce qu'on lâche le morceau et on laisse le soin au Seigneur d'assurer notre bonheur. C'est son job. Et il le fait bien quand on le lui laisse faire. Prions. Seigneur, on veut te demander pardon parce que souvent nous sommes adultères. Nous cherchons ailleurs que dans une vraie relation profonde avec toi. De la joie, du plaisir, un sens, une satisfaction. Et nos passions s'en mêlent dans tous les sens. Et Seigneur, à la fin, nous ne sommes pas en paix. Il y a du conflit, il y a du tumulte, il y a des rivalités. Il y a de l'amertume et des aigreurs dans notre cœur, des frustrations. Seigneur, tu veux nous rappeler que tu as fait habiter ton Saint-Esprit en nous. Il est venu faire sa demeure pour nous remplir et pour nous remplir de joie, de satisfaction, pour s'occuper des besoins les plus profonds de nos cœurs en matière de bonheur et de joie. Seigneur, apprends-nous à laisser ton Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous plonger, nous inonder dans sa joie et que nous soyons préoccupés de lui plaire. Que nous soyons préoccupés de tes intérêts, Seigneur. Seigneur, aide-nous dans les prochaines fois où nous allons nous prendre la tête avec quelqu'un, nous allons nous disputer aide-nous à ne plus conclure que le problème c'est l'autre, Mais amène-nous à nous interroger où est mon problème, où est ma convoitise, où est ma passion, où est-ce que je ne veux pas lâcher ce à quoi je suis. À maintenir la querelle, le conflit, l'amertume. Seigneur, que nous puissions alors te confesser ces choses. Cet endroit, ce morceau qu'on ne veut pas lâcher, et que par la force de ton esprit, on puisse lâcher l'affaire en lâchant ces convoitises, ces passions, ces choses qui nous tiennent tant à cœur et qui pourtant nous plongent dans du tumulte, dans des tempêtes. Merci parce que tu nous rappelles avec justesse que l'amour du monde est incompatible avec l'amour pour Dieu, l'amour pour toi, Seigneur. Que nos cœurs, aujourd'hui, s'interrogent sur nos motivations, sur ce qui nous fait carburer. Est-ce que nous carburons pour toi, Seigneur, ou est-ce que nous carburons pour nous-mêmes? Que nous puissions répondre à cette question, Seigneur, avec honnêteté, échanger s'il le faut, au nom de Jésus. Amen.